Franck, hola, good evening, vous êtes sur Amuse Gueule, une émission comme de coutume placée sous le signe de la jeunesse et de la beauté. Et ce soir tout spécialement puisque nous sommes en compagnie d'Amandine dont ce sont les premiers pas à la radio. Bonsoir Amandine.
Exactement, bonsoir.
Amandine qui sera l'occasion de parler tâtonnement, quête de soi, puisqu'Amandine est pâtissière et c'est sa quatrième carrière à un âge tout petit. Nous sommes aussi avec Yvan. Bonsoir Yvan.
Bonsoir. La jeunesse, la beauté aussi.
Jeunesse et la beauté, c'est extraordinaire de te voir pour une fois loin de tes manettes qui ce soir sont tripotées par Stéphane. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir.
Donc une émission où on parlera pâtisserie, où on parlera découverte, où on parlera de Louis Jouvet, où on parlera de toutes sortes de choses, mais on commence avec Désir Désir qui est chanté par Laurent Voulzy.
Toutes les chansons racontent la même histoire.
Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir.
Il n'y a plus beaucoup d'électricité dans l'air. Moi, ça fait deux jours que je vis comme au 19e siècle, à la bougie, avec les yeux qui piquent. Et du coup, je n'ai pas pu préparer l'émission que je voulais ce soir. Donc,
zut alors.
Mille excuses, je voulais faire un sujet sur Louis Jouvet, mais je vais tout de même m'en servir pour introduire une interview d'Amandine. Alors, comment je vais faire ça? Louis Jouvet, ça a été pour moi une vous connaissez Louis Jouvet avant Amandine?
Pas du tout.
Connaissez-vous Louis Jouvet? Non, comment?
C'est un chanteur?
Vous fichez de moi, vraiment?
C'est un écrivain. Bah,
Mec.
Je connais pas Louis Jouvet. Je connais Patrick Jouvet, mais pas Louis. C'est peut-être son père, non?
Louis Jouvet, c'est un acteur français.
Ok, enchanté.
De la comédie française, enfin, c'était...
Drôle de drame,
c'est celui qui donne la réplique à Michel Simon.
Je connais pas Michel Simon non plus.
Romain, c'est le spécialiste des vieux films français. Tu connais Amandine? Vous connaissez Amandine?
Oui, je connais, mais justement.
Bon, je vous passerai un extrait de ses films un peu plus tard et vous reconnaîtrez sa voix très singulière. Et ce qui est formidable avec Louis Jouvet, c'est qu'il joue faux. Mais il joue faux depuis si longtemps que ça a fini par créer ce personnage de Louis Jouvet qui est un très léger décalage. Et d'ailleurs, lui prenait la désincarnation dans le jeu. Il avait d'ailleurs écrit un livre à l'adresse des apprentis acteurs à ce sujet qui était intitulé l'acteur désincarné. Et pour moi, qui venait d'une... Donc là, je ramène l'affaire à une dimension plus personnelle. Ayant grandi dans un milieu petit bourgeois, dont j'ai beaucoup souffert, parce que les gens bien nés, pour moi, avaient une sorte d'autorité naturelle qui m'échappait. Et au sud, c'était le prolétariat. Et eux aussi, ils avaient une force qui m'était complètement inconnue. Je savais pas où j'étais. J'ai eu du mal à trouver mon style. C'est comme on parlait de comme Alain Souchon un petit peu, le mec qui cherche. Et cet homme qui a persévéré dans le faux jusqu'à atteindre sa vérité, pour moi, ce fut une révélation. Et c'est un peu comme vous, Amandine, si on y songe. Vous tâtonnez, vous questionnez la vie pour essayer d'y trouver une petite place. Vous faites un bac ceci, vous retrouvez dans une branche, vous en prenez une autre, vous êtes...
C'est un peu ça, oui. J'ai mis plusieurs années avant de trouver ma voie et de savoir réellement ce que je voulais faire dans ma vie.
Donc c'est fichu, là. Donc vous avez atteint le terminus, il n'y a plus rien à chercher.
Ah non, moi je pars du principe que tout est possible dans la vie et qu'il faut suivre le fil de ses envies et de ses idées. Donc si j'ai encore envie de changer de voie dans les années à venir, je le ferai. Il faut juste sauter sur l'occasion et saisir les opportunités qui se présentent.
Et avoir des parents avec un peu de sous aussi, ce qui aide.
Non, il faut travailler, déjà par soi-même, du coup, pour se payer
Et dans quelle branche travaillez-vous, Amandine?
Alors, actuellement, la pâtisserie.
Et voilà, 10 minutes, quand on n'a pas de sujet, eh bien, on fait une introduction de 10 minutes pour présenter Amandine et la pâtisserie.
Il faut connaître, comment il s'appelle, Louis Jouvet?
Bah oui, mais je le passerai après. Amandine, donc, un nom... prédestiné.
C'est vrai, quand on y pense, oui, Amandine, la tarte Amandine. Il y a aussi la pomme de terre Amandine, ce qui est moins glamour. En général, j'évite d'en parler.
La pomme de terre Amandine.
Oui, princesse Amandine. Pomme de terre, princesse Amandine.
C'est une sorte de pomme de terre.
Tout à fait.
Ok. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Je ne sais pas du tout. Je n'en mange pas.
Alors, Amandine de Versailles.
Voilà.
Originaire de Versailles, c'est ça?
Oui.
À Paris, c'est... Versailles, c'est Paris, non? C'est...
Les Parisiens diront non, les Versaillais diront peut-être que oui, un petit peu.
Oui, Sacha Guitry avait fait un film sur Paris, un film sur Versailles.
Bon, voilà.
Okay.
Donc, vous êtes allé en Australie.
Et vous tout à fait, une année.
Et après, la Nouvelle-Zélande, c'est ça?
Et après, la Nouvelle-Zélande, oui. Et entre les deux, du coup, je suis revenue en France pour passer mon CAP pâtisserie parce que je n'étais pas dans le domaine à la base.
Et en Australie, vous avez fait quoi? Aussi de la pâtisserie ou pas du tout?
Pas vraiment.
C'est pas bien ferme, cette interview. Elle n'est pas tenue.
Non,
vous voyez qu'elle est pas tenue. Elle va partout et nulle part à la fois. Donc, on va préparer notre question. Mais en écoutant une chanson. Une chanson, c'est Pink Martini. Et on reviendra avec des questions, quand des allures de questions.
C'est le dernier album?
Non, c'est pas né.
Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume.
Voilà, nous avons fini nos questions et on voit la une. Dans ces temps post-Weinstein, dans ces temps où les choses ne sont plus tout à fait comme elles étaient, où un homme peut pleurer et rester viril, où une femme peut dire merde en étant toujours charmante, est-ce qu'il n'est pas temps de désexualiser, de cesser d'attribuer la pâtisserie au genre féminin? Parce que dans le monde d'avant, dans le monde de nos pères, un petit four, un petit gâteau, c'est pour les gonzesses. Et je plaide coupable, j'ai toujours un pied dans ce monde-là. On me tend un petit gâteau, je dis non, je serais plutôt fromage ou je vais prendre un calvados à la place.
D'accord. Alors, moi, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue-là. Enfin, pour moi, la pâtisserie, ça n'a pas forcément connotation côté féminin. Tous mes professeurs, par exemple, étaient des hommes. Et le corps, c'est le corps masculin qui est en cuisine, en général. C'est vraiment, c'est que des hommes. Donc, en fait, la pâtisserie se féminise. Et de plus en plus, parce qu'on en parle à la télé, il y a beaucoup d'émissions qui sont faites aussi à ce sujet-là. Et Ben voilà, je pense pas que. Enfin, pour moi, c'est pas forcément féminin, c'est peut-être parce qu'on y pense comme d'accord, ça, parce que c'est le souci du détail.
Ce que vous décrivez n'est pas opposé à ce que je connais. Les hommes font la pâtisserie, les femmes les mangent. Mais est-ce qu'on entre dans un monde où les femmes font la pâtisserie et les hommes les dévorent, ce qui est complètement inouï, si on y songe.
Non, enfin, parce qu'il reste toujours plus d'hommes pâtissiers que de femmes, en tout cas. C'est juste que je pense que la femme, avec la médiatisation qu'il y a autour de la pâtisserie actuellement, depuis quelques années, se dit c'est possible et je peux le faire aussi. Ce que je faisais en tout cas dans la cuisine, les femmes, parce que les femmes cuisinent plus que les mecs en général.
Je pense qu'on parle de deux choses très différentes. Il y a le faire et le déguster. les femmes ont une appétence plus développée peut-être pour les choses
pour
sucrées.
Pour le
sucré, joli. Parce que la pâtisserie est jolie par essence, plus qu'une pièce de bœuf.
Oui, c'est plus un art, on va dire, oui. Mais
Donc, allons-nous nous disputer sur cet aspect des choses, qui est qu'il y a une prédisposition des femmes
à manger la plus sucré.
Oui, plus sucré et plus joli.
Oui, mais je ne suis pas forcément d'accord. Enfin, les hommes adorent manger des pâtisseries aussi.
Mais oui, mais ils en ont honte.
Pas du tout, pas du tout.
Pas du tout.
Ah non, moi j'ai pas honte. Hein.
Alors, messieurs, intervenez, parlez-nous de votre rapport secret, personnel à la pâtisserie.
Ouais.
Et on n'est pas dans le faire, on est dans le déguster.
Bon, moi je déguste tout. Hein. Mais tout. Amandine.
Non. On parle de vous, on parle de toi, Yvan.
Non, mais moi j'ai pas de sous pour acheter tous ces trucs-là, mais. à l'occasion, surtout je passe à la boulangerie, j'achète une baguette, mais j'évite d'acheter des pâtisseries. Il y a un peu trop de sucre pour moi. Déjà, j'essaye de perdre des kilos, donc la pâtisserie, c'est pas forcément bon pour perdre des kilos. Si ?
Bah, tout dépend laquelle.
Alors voilà, explique.
Voilà.
Il y a une raison pour laquelle t'es la technique, toi.
Voilà, exactement.
Parce que moi, depuis peu, par exemple, j'ai travaillé 6 mois dans une pâtisserie française. Donc, qui dit pâtisserie française dit dessert très calorique, à base de beaucoup de beurre, de produits laitiers, de produits animaux. Et maintenant, je travaille dans un café végétarien, vegan, dairy-free, gluten-free. Et donc là, on remplace les laits animaux par des laits végétaux, le beurre par des beurres végétaux. Donc du coup, c'est une nouvelle approche. Et donc là, le dessert devient moins calorique. En tout cas, ce sera du bon gras ou des bonnes calories, des meilleures calories, que les protéines animales. Et donc du coup, là, les desserts deviennent plus sains.
N'y a-t-il pas quelque chose de superflu, d'un peu absurde à faire des desserts qui soient bons pour la santé? Est-ce que c'est pas une sorte de contradiction dans les termes, puisque j'aime manger quelque chose que je sais mauvais, et s'il n'était pas mauvais, il ne serait pas aussi bon. Et c'est pour ça qu'il n'est consommable qu'occasionnellement. C'est une sorte de fête. Et si on supprime l'idée de fête, si on peut le manger à toutes les sauces, quelles que soient les occasions, parce qu'on n'en tire aucune culpabilité, eh bien ça fait disparaître le plaisir. Ça, c'est un peu comme le nudisme, en fait. C'est une sorte de nudité qui serait là, permanente, et qui désincarnerait les corps. Enfin, je sais. Fred, Steph.
Non, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi les protéines animales sont mauvaises pour la santé, par exemple. Et pourquoi manger de la viande, c'est mauvais pour la santé. Est-ce que
On parlait pâtisserie.
Mais pourquoi faire de la pâtisserie sans produits animaux?
Je pense que le corps humain n'est pas fait pour assimiler les protéines animales. Après, c'est un débat assez houleux. Donc.
C'est bien que ça soit houleux, parce que la Nouvelle-Zélande vend beaucoup de produits laitiers, beaucoup de viande, mais bon, toutes les recherches actuelles et même passées viennent à dire que manger de la viande, c'est pas bon pour la santé. En fait, ça crée plus ou moins le cancer.
Manger trop de viande.
Manger trop de viande.
C'est ça qui fait que c'est pas bon.
Et la prochaine fois qu'on invite un boucher à Musical, je lui poserai des questions sur la pâtisserie aussi. Et
là, on parle pâtisserie non avec vegan, donc. Hein. C'est ça,
c'est
vegan
ça. Ouais.
Non, excusez-nous chez vous. Nous allons raffiner nos questions encore un peu plus. Et entre-temps, nous écoutons Vladimir Kosma, Tendre Sam et Sally, début des années 70. Je n'étais pas né. Alors donc, Stéphane, tu avais une question très pertinente.
Voilà, je me demandais si ces pâtisseries vegan étaient moins caloriques que les pâtisseries normales, ou parce que tu parlais de meilleures calories, mais est-ce qu'il y a moins de calories?
Alors, il n'y a pas forcément moins de calories, et donc voilà, je parlais de meilleures calories, car comme c'est du bon gras, entre guillemets, parce que ça va être des noix, ça va être des fruits secs, comme les dattes, qui vont remplacer le sucre. Et donc, de ce fait, logiquement, si on a une activité physique à côté régulière, il s'éliminera plus facilement. Enfin, ses calories s'élimineront plus facilement. Et il n'y aura pas d'effet négatif pour le corps, contrairement aux protéines et donc au gras animal qui va se stocker directement.
Est-ce qu'on est sûr de ça? Parce qu'il y a beaucoup d'études sur le gras animal qui est mauvais, mais peut-être qu'il n'y a pas encore d'études sur le gras végétal qui serait lui aussi mauvais.
Non, parce qu'on a toujours dit que les noix c'était bon pour la santé et on l'avait
rejeté. Le Nutella c'est bon.
Ah non, il n'y a pas de noix dans le Nutella, ça c'est un mythe.
C'est du sucre, non? Et de l'huile.
Je crois qu'il y a 2% de noisettes à peine, c'est ridicule. On ne peut pas dire que Nutella c'est des noisettes.
C'est un peu comme comme le spirulina en fait.
Oh, mais c'est beaucoup d'huile de palme, donc l'huile de palme serait bonne pour le corps.
Ah oui, mais non, ça l'huile de palme, non.
Non.
Okay. Elle ne rentre pas comme le bon gras, c'est l'huile de coco. Mais après, c'est pareil, il ne faut pas dans l'excès.
Qu'est-ce qui qualifie le bon gras?
Il y a deux types de cholestérol, par exemple. Et donc, le bon gras, c'est celui qui va alimenter.
Est-ce qu'on n'est pas toujours le bon gras de quelqu'un ou le mauvais gras de quelqu'un?
Non, bah, s'il se voit, c'est que c'est le mauvais. Et le bon ne se voit pas, parce qu'il s'élimine tout seul, il ne se stocke pas. Il se stocke temporairement et on l'élimine naturellement durant la journée ou en faisant du sport. Le mauvais se stocke et il en faut plus de temps.
Oh, là, ça m'intéresse. Alors, une liste.
Une liste?
Des bons gras.
Des bons gras, tout ce qui va être dans les huiles végétales, quasiment tout, hein, pas
l'huile de palme.
Pas l'huile de palme.
Et pourtant, c'est végétal.
Ouais. Oui, mais donc pas toutes, il y a des exceptions. Okay. Ça dépend du traitement aussi et de comment elle est fabriquée. L'huile d'olive, ça va être du bon gras.
L'huile de tournesol.
Oui.
L'huile de peanuts. Les Asiatiques, ils mettent beaucoup d'huile de peanuts.
Cacahuètes, ouais. Oui, mais alors très très calorique, donc pas en excès.
Une canola.
Canola.
Canola, oui, l'huile de canola.
Canola.
Celle-ci, je ne sais pas, j'ai un doute.
Je crois que c'est mauvais pour la santé.
Je ne suis pas sûre, celle-ci.
Okay. C'est vrai?
On met un point d'interrogation.
Ouais. Hein. Ah non, aucune frite, l'huile de canola.
Oui. Mmh. Mais elle est très pratique parce qu'elle sert à toutes les cuissons. Parce qu'on ne peut pas utiliser de l'huile d'olive, logiquement, pour cuire. Parce qu'il y a la poêle.
Il y a beaucoup de...
On détruit les nutriments.
Il y a beaucoup de cuissons dans les fritures en Nouvelle-Zélande, les fish and chips.
Oula, oui, hein, oui, beaucoup de
très,
fritures.
Très, très bon pour la santé, ouais, d'ailleurs.
On ne peut pas utiliser de l'huile d'olive pour cuire?
Non, logiquement, non. Ah, parce qu'on détruit les nutriments, en fait. Donc, c'est du vide. Enfin, c'est non. L'huile d'olive n'est pas faite vraiment pour...
Ah, donc, c'est juste pour les plats froids, quoi.
Est-ce que les pâtisseries véganes sont plus chères que les pâtisseries traditionnelles?
Oui, parce que les produits pour les fabriquer sont plus chers. Les noix coûtent très cher. Après, on utilise du cream cheese, donc c'est une sorte de fromage qui coûte beaucoup plus cher. De la poudre d'amande, donc c'est pareil, c'est des amandes, ça coûte cher. Donc oui, alors que le beurre, c'est beaucoup moins cher. Le lait animal, ça coûte rien. Le lait végétal, le lait d'amande, ça coûte très cher.
Et on peut avoir un pain au chocolat
vegan? Oui, c'est possible. C'est compliqué, ça demande des expériences, plusieurs essais. Il sera peut-être... Enfin, la texture ne sera pas la même. Il ne faut pas s'attendre à avoir le goût du beurre, qu'on ne retrouvera jamais. Mais on peut avoir des équivalents qui sont intéressants et qui sont bons. Peut-être pas aussi bons. On ne retrouvera pas le même goût, mais qui sont bons. Tout est possible.
Et en pratique, où est-ce qu'on peut déguster ces pâtisseries?
Dans les cafés et pâtisseries où il y a le sigle vegan ou végétarien parfois, ou dairy-free, gluten-free. Ça dépend parce que c'est totalement différent. Il va y avoir des desserts... sans lait ou sans œufs, c'est très spécifique.
Mais est-ce que c'est pas un peu une mode gluten-free
Oui, alors ça, c'est une question qui m'intéresse. Je n'ai rien compris. Pourquoi d'un seul coup le gluten devient dangereux alors que je n'avais jamais entendu parler avant il y a 5 ans?
Il y a beaucoup plus de gens qui se disent allergiques au gluten. Pourquoi?
C'est pas parce que qui se disent allergiques
et d'autres qui se disent intolérants. C'est deux choses différentes. Les allergiques, eux, ne pourront pas en manger, ils vont faire des crises. Et leur corps. Enfin, dans l'estomac, en fait, quand on est allergique à quelque chose, ça va faire former des trous. Et les intolérants, eux, ont juste un peu mal, entre guillemets. Et donc, ça dépend. Il y en a qui font se dire intolérants juste parce qu'ils veulent surfer sur la tendance, entre guillemets, et qui trouvent qu'il y a une différence. Mais,
Parce qu'avant, quand les gens mangeaient du pain traditionnel, il y avait très peu de monde qui était allergique au gluten.
Je crois que la fabrication de la farine a changé. Il y a, la concentration de gluten a augmenté, non ? Au cours des temps.
C'est possible. Ça, je ne sais pas. Mais peut-être que du coup, il y en a qui se sont dit « Ah, mais j'avais mal au ventre. » Ça se trouve, c'est peut-être le gluten. Si j'arrêtais le gluten, et si je voyais ce que ça donnait. Mmh. Et donc, il y en a comme ça qui se sont dit « Ah bah oui, c'est vrai que depuis que je mange plus de pain ou plus de pâtes, j'ai plus mal au ventre. »
Est-ce que ça a à voir avec les aliments génétiquement modifiés ?
Ça se pourrait. Je ne suis pas scientifique ni experte dans la question.
Mais est-ce que Monsanto est de la partie ? C'est ce qu'on voudrait savoir. Bah oui, non mais c'est... Ceux qui modifient les aliments, c'est Monsanto. Hein. Non ?
Bah, je ne dis rien, cette interview part encore en canouille.
Ah, on va devoir écouter la musique.
Non, pas tout de suite, parce que j'ai une question... Enfin, plus qu'une question, une observation... J'ai l'impression que plus on se penche sur les détails de ce qu'on mange ou des exercices physiques que l'on fait, plus il semble qu'on perde la relation assez simple qu'on devrait avoir avec notre corps et à la connaissance de ce qui est bien ou mal pour nous. On me demande. Je suis sûr que ça nous arrive beaucoup ici. Comment ça se fait que les Français soient plus minces que les Néo-Zélandais alors qu'ils mangent beaucoup de plats en sauce et de pâtisseries riches en beurre ? Et ce sont souvent ces mêmes collègues qui me posent la question, ceux qui comptent les calories absorbées par jour, qui choisissent avec beaucoup de soin les snacks qu'ils vont manger pendant le repas. Et je leur dis tout simplement, mais non, c'est très simple. 3 repas équilibrés par jour, une portion raisonnable, marcher un petit peu et surtout pas de snacking. C'est tout simple pour garder la ligne, il n'y a que ça.
Mais en Nouvelle-Zélande, le repas principal est le soir. Hein. C'est un peu la différence, quoi.
Oui, mais très bien, ils mangent tôt. Si tu manges à 6 heures, c'est très bien, tu peux même faire un petit souper un peu plus tard, mais c'est pas ça qui va te faire grossir. Ce qui te fait grossir, je les vois, c'est leur barre chocolatée où ils comptent les calories dessus. Mais arrêtez les filles, j'en ai même une qui a complètement perdu connexion avec son corps, qui mademoiselle, pour perdre du poids, compte ses pas. Elle doit marcher tant de pas pendant la journée et son professeur de gym là, lui dit, vous devez vous faire... Et donc elle compte ses pas. Je lui dis, mais t'es déconnectée, fille. Tu t'es perdue.
Oui. Bon, c'est vrai que là, c'est triste et c'est extrême. Ce qu'il faut, c'est juste, voilà, comme vous le disiez, manger 3 repas par jour et surtout pas grignoter. En fait, c'est le grignotage qui est le pire. Ouais. C'est le grignotage qui est le pire. Si les gens ne grignotent pas et qu'on fait un petit peu sport raisonnablement, marcher juste 1 à 2 heures par jour, c'est bon, le corps
éliminera. La Nouvelle-Zélande est quand même 3e ou 4e dans l'obésité et le diabète.
Oui, c'est 3e derrière les États-Unis et le Mexique.
Donc ça, c'est triste quand même, ça.
Mais c'est vrai qu'ils grignotent beaucoup, hein, beaucoup de snacking. Hein. Et le snacking, c'est pas... Oui, c'est des barres.
Ils grignotent beaucoup et il y a beaucoup de nourriture rapide, style McDo, KFC,
ouais, et ça, quoi. Aussi. Et de fritures, comme...
Et de fish and chips, ouais. De pies. Les pies, c'est pas super bon en la santé, non plus. C'est quoi l'équivalent des pies en France ?
Mais c'est un peu de la pâtisserie, la pie.
Je dirais l'équivalent en France serait les tourtes. Les tourtes au fromage, les tourtes aux champignons. Et on n'en fait que l'hiver, on va dire, en France, plus ou moins. Et on n'en prend pas comme ça pour grignoter.
Et c'est assez calorique, hein, les pâtes.
Ah bah ça, oui, parce que c'est de la pâte, donc du beurre, du sel, de la farine.
Plus tout ce qu'il y a au milieu de la pâte, quoi. La viande, la sauce.
La sauce, surtout.
Un petit peu de sucre pour...
Pour rehausser le goût. Exactement.
Donc, est-ce que la nourriture te plaît en Nouvelle-Zélande ? Est-ce que...
Non, alors ça on va sauver cette question. On va économiser cette question. On va la garder pour un peu plus tard parce que c'est une excellente question. Mais tout de suite, puisqu'on parlait d'obésité, on va écouter une fable de La Fontaine lue par... Et ça vous fait plaisir parce que ça correspond à votre culture cinématographique. C'est Louis de Funès qui lit... qui compte une fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf.
La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enflue et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant ah, « Regardez bien, ma sœur. » Est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? Néné. M'y voici donc. Point du tout. M'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
C'est charmant, non ?
C'est super. Louis de Funès, ça fait plaisir. Funès,
bon, j'en passerai une autre un peu plus tard.
On entend toujours le monsieur Jouvel.
Oui, alors je le passe après. Je le passe après. Je passe
moi, j'ai un point commun avec Louis Jouvet.
Quel est-il ?
Je joue faux. Je chante faux et je joue faux. Quand je prends un instrument, je joue faux.
Non, tu m'auras mal compris. Il joue si faux qu'il joue très bien.
Bah, c'est pareil.
Jouer faux, c'est. Enfin, il a une façon de parler qui n'est pas naturelle, mais qu'il a tenu si longtemps qu'il en a fait comme une seconde peau. Il s'est créé un personnage de qui il n'était pas né cet homme-là. Il est devenu à force de persévérance dans la fausseté. Et c'est ça qui est extraordinaire pour un petit bourgeois comme moi qui se cherche comme Amandine.
Est-ce que Amandine, êtes-vous bourgeoise ? Voilà la question qu'on va poser puisque Romain parle de la bourgeoisie. Est-ce que
elle se tient bien ?
Oui.
Elle a une bonne
bon, on s'y tient bien tous dans le studio.
C'est vrai que ça m'a toujours dit, elle se tient droite, un peu trop droite peut-être. Mais
non, c'est très très bien.
Alors, est-ce que la bourgeoisie, c'est se tenir droit ? Qu'est-ce non. que la bourgeoisie ?
C'est un état d'esprit et une attitude. Je sais plus, c'est la façon de parler.
La bourgeoisie a mauvaise presse, de toute façon. Un bourgeois, c'est moi j'entends le bourgeois au sens du 19e siècle. Le bourgeois, c'est celui qui économise, celui qui garde pour lui, celui qui...
Qui se croit au-dessus des autres,
au-dessus des autres, et qui souffre d'un complexe d'infériorité face à l'aristocratie. Il y a plusieurs choses. Ou alors maintenant, quand on parle bourgeois, on peut penser à une bourgeoisie plus ancienne, plus assise, qui de toute façon tout ça ne veut plus rien dire parce que c'est la petite bourgeoisie. C'est les gens comme moi qui ont pris le pouvoir.
Qui ont pris le pouvoir.
Ah, tout à fait. On parle. Mmh. Bah, les codes, etc. Qui parle bien, qui fait un effort. La langue est débraillée. Regarde-moi quand mon t-shirt là à trous. Il n'y a pas de quoi être fier.
Est-ce qu'il y a de la bourgeoisie en Belgique ?
Oh, sûrement. Hein. On ferme un point Jacques Brel.
Il y en a partout.
Oui, tout à fait.
En Nouvelle-Zélande, je m'excuse, mais je vois pas trop de bourgeoisie spécifique en Nouvelle-Zélande.
C'est très trompeur, la Nouvelle-Zélande, parce que quand on y arrive, on a l'impression d'une société très, très égalitaire, parce que les codes sont les mêmes en bas et tout en haut. Ils parleront le même langage avec le même accent, alors que c'est un des pays du monde occidental, de l'OCDE, où les disparités économiques sont les plus frappantes.
Exactement.
Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres et les plus
et on peut citer nos confrères de Petit Journal qui ont publié un article sur le réalisateur de Hunt for the Wilder People qui disait que la Nouvelle-Zélande était le plus beau pays dans lequel on peut vivre, mais qu'il était ultra raciste parce que les Anglais, enfin les Blancs, puisque le réalisateur maori disait qu'il faisait...
C'est un mélange,
il faisait exprès de prononcer les mots maori à l'anglaise pour...
Je crois qu'il est allé un peu fort en besogne là, parce que oui, il y a du racisme en Nouvelle-Zélande, mais c'est pas le, ça saute pas aux yeux, qu'il soit particulièrement raciste, pas plus que n'importe quel pays européen que j'ai visité. Et au travail, enfin, je vois pas de racisme institutionnel. Il y a des choses à faire, mais pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre, alors que lui a voyagé, là je le trouve un peu injuste.
D'ailleurs, ça fait un peu les choux gras dans la presse en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous en pensez, Amandine, vos expériences en Nouvelle-Zélande? Est-ce que vous trouvez les gens racistes ou pas?
Je dirais que non. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est un pays dans lequel on ne ressent pas. On ne ressent pas le racisme. Mmh. Après, peut-être parce que je suis personnellement pas ciblée, enfin, je ne me sens pas visée. Donc je le ressens pas. Quand on pense Nouvelle-Zélande en tant qu'Européen, en tout cas, je pense qu'on pense pas au racisme. Pas au premier abord, du moins.
Parce que ce qu'il disait dans le fond de sa pensée, c'est que les Blancs en Nouvelle-Zélande sont racistes envers les Maoris et les Polynésiens. C'est ce qu'il voulait dire par là, quoi.
Oui, il y a de la discrimination. Enfin, il suffit de voir, il y a plus de pauvreté, il y a plus de ils sont surreprésentés dans les prisons. Je crois que ils représentent à peu près 15%, les Maoris, 15% de la population, alors qu'ils représentent plus de 50% de la présence carcérale. Donc oui, il y a un problème de pauvreté, mais il y a eu du racisme institutionnel jusqu'à assez récemment, historiquement, quand il aurait été interdit de parler leur propre langue à l'école. Mais est-ce que c'est un débat difficile, parce que leur interdire de parler, je sais que beaucoup d'immigrants, par exemple, refusent alors enfants de parler la langue du pays, mais dans un souci d'intégration et dans un souci de réussite sociale. On peut, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou ce qu'il a fallu faire, mais on peut le défendre de ce point de vue-là. Et je ne sais pas s'il s'agit de pur racisme, de voir dans les Maoris des gens par nature inférieurs.
Et si on pose la question à notre universitaire, est-ce qu'il y a beaucoup de Maoris, de profs Maoris à l'université et tout ça, quoi?
Ah, c'est clairement sous-représenté. Hein. Ouais. Il y a quelques années, je sais plus quand c'était, mais il y avait un PhD en physique qui était Maori. Et dans les autres branches, c'était peut-être un peu plus, mais...
Est-ce qu'on peut apprendre le Maori à l'université? Est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est...
Ah, je suis sûr qu'il y a des cours, parce que bon, l'université se doit de supporter ça, je suppose, mais je ne sais pas du tout. En tout cas, en faculté des sciences, on n'en parle pas beaucoup. Il y a un support pour les étudiants maoris, ça c'est clair.
Est-ce qu'il y a toujours une discrimination positive? Est-ce qu'on peut atteindre, est-ce qu'on peut passer à la classe supérieure ou avec des notes légèrement inférieures, comme c'était le cas il y a quelques années?
Non, les notes, elles ne vont pas être modifiées pour tel ou tel groupe. Il y a des programmes mis en place pour aider notamment les étudiants maoris. Mais il y a parfois le problème que certains étudiants maoris, c'est le premier de leur famille à être à l'université. Et donc parfois leurs parents ne comprennent pas ce que ça implique. Et il y a parfois des étudiants qui viennent nous dire « Ah ben là, ce soir, il y a un test très important, ça compte pour 5 ou 10% des points. Mais ma maman m'a dit d'aller chercher mon oncle, et donc je ne peux pas venir au test. » Et la maman, elle ne comprend pas que le test, c'est important. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a des systèmes de support qui sont en place.
Un problème, en fait, un peu générationnel, vu ce qui s'est passé quand les Anglais ont colonisé la Nouvelle-Zélande.
Oui, ouais, non, tout à fait. C'est parce que c'est la première génération de cette tranche sociale à l'université que ça pose ce problème.
Voilà. Alors on va passer à... Qu'est-ce qu'on écoute, Romain?
Bon, vous vouliez écouter Louis Jouvet? Vous vouliez reconnaître sa voix?
Ben voilà.
Ben voilà, écoutez.
Écoutons Louis Jouvet.
Qui donne la réplique à Arletty.
Et après?
Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire.
Fataliste.
Si tu veux le résultat elle-même. Pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Ou bien, je m'y suis habituée. Coquarmier à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors, rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors, ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est quoi?
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ici, l'atmosphère, c'est un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère!
Puisqu'on est au rayon du cinéma, j'ai vu un petit film tout à fait charmant récemment. Je suis désolé, donc j'ai plus d'internet. J'en ai oublié le nom du réalisateur. Mais Benoît Poelvoorde y incarne Dieu himself. On y trouve aussi Catherine Deneuve, amoureuse d'un grand singe, d'un oui. gorille. Et ce film, c'est le tout nouveau testament. Et c'est dans la tradition du surréalisme belge, l'idée est très très bien. Donc Dieu et Benoît Poelvoorde, c'est un tyran, un imbécile crasseux qui joue avec les hommes, enfin avec l'humanité, comme s'il s'agissait de petites fourmis ridicules. Et il tyrannise sa famille, donc, et y compris sa fille de 10 ans, qui, pour se venger un jour, envoie un texto à la Terre entière, donc à chaque individu peuplant la Terre, pour leur annoncer l'heure exacte de leur mort. Donc tout le monde reçoit un texte sur son téléphone disant « Vous allez mourir dans 2 ans, 3 jours, 4 minutes.
Ouais. » Mais ça, c'est surprenant quand même.
Et c'est une excellente idée. Et bien sûr, ça bouleverse tous les rapports humains. Et après avoir fait ça, donc sa fille de 10 ans s'exile sur Terre. Donc à la suite de son grand frère, Jésus. C'est la deuxième à fuguer. Et elle ne sait pas, elle n'a pas beaucoup de talent, moins de Jésus, elle ne sait pas transformer l'eau en vin, mais elle a ce talent qui est tout, c'est une très jolie idée. Quand elle rencontre quelqu'un, elle met sa petite tête sur leur thorax et elle écoute leur petite musique, et chacun a une petite musique. Et les musiques qu'elle identifie à chaque fois sont des morceaux de musique classique, dont un qui fait partie de mon panthéon personnel. D'ailleurs, je le passe à l'antenne. C'est la jeune fille et la mort de Schubert.
Et le réalisateur, c'est Jaco van Dormael.
On ne peut plus belge.
Producteur. Van Dormael.
Van Dormael, ah pardon. Accent belge, j'arrive pas. Hein.
Et à la demande générale, une autre fable lue par Louis de Funès, cette fois-ci le savetier et le financier.
Signé Furax.
J'ai trompé le bouton. Allez, 5 minutes de signé Furax.
Premier épisode.
Pierre Dac.
L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3h du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé.
Ça, c'est classique.
Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange.
Voile des neiges, mon cœur amoureux. C'est pas malheureux tout de même. Si je connaissais les saligots, ils m'ont fait ça à moi. Un homme qui a fait la guerre. Parce que il n'y a pas de question. Ils m'ont enfermé. Après, j'ai beau marcher, il y a toujours ce sacré gris pour m'empêcher de sortir. Bon sang, bon Dieu de bienvenue. Je te vois voir, je te vais enjamber. Mon Dieu, ce sacré gris en moins de 6. Tu vas voir comment je vais y prendre. Il a fait saleté de foyer. Et voilà, ça y est. Oh, ben alors ça, c'est l'obélisque. Vive l'obélisque. Oh, ben qu'est-ce qu'a fait l'obélisque en dehors des grilles, ça, alors c'est pas vrai. Oh, c'est pour mes oignons. Ouais. Ce vieil obélisque, ouais. Toujours fidèle au poste. Oh, bon. Oh, par Louxor et Khéops. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras qui est rentré dedans. Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas humain. Au secours. Au secours, police. Police.
Et quelques instants plus tard...
Regardez, chef. Ce type-là, il a défoncé l'obélisque.
Il a défoncé l'obélisque.
Mais ma parole,
mais ça a l'air vrai. Il faut voir ça de près. Hein.
Oui.
Vivant bien, ouvrez oui, la porte de la grille.
J'ai pas les clés, chef, mais il y a qu'à passer par-dessus.
Ah, ça, c'est illégal. J'ai pas de mandat d'escalade. Oh. Il faut les clés. Qui les a?
Le conservateur, certainement.
Ah oui, c'est juste. Bon, alors courez à la voiture radio et ramenez-moi le nom et l'adresse du conservateur. Hein.
Et quelques instants plus tard, au pied de l'obélisque...
C'est cet homme-là?
Oui!
Regardez, messieurs. Oh. Regardez le bord du trou. Mm. C'est du plâtre.
Du plâtre?
Oui, monsieur. L'obélisque de Louxor a disparu.
Comment?
L'obélisque a été remplacé par une grossière imitation en staff.
Je vous demande, écoute, je vous demande à tous de garder un secret absolu. C'est très grave.
Dites-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi?
Ah non, 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 il ne faut rien changer avant l'enquête.
Et monsieur Léon, qu'est-ce que vous regardez?
Les hiéroglyphes.
Oui.
Les caractères qui sont gravés dessus.
Oui, oui, oui.
C'est assez bien imité, mais...
Mais quoi?
En voilà deux qui ont été rajoutés.
Rajoutés?
Oui, ils n'existent pas sur l'obélisque original.
Et ils veulent dire?
Attendez. Oui, vite. Mon Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire, docteur?
Ça veut dire...
Oui.
Oh mon Dieu, il est évanoui.
Il faut prévenir tout de suite le ministre de l'Intérieur.
Alors, qu'est-ce que vous décidez, monsieur le ministre?
Cette histoire m'a l'air très grave. Il faut prévenir la DTT.
La défense divisionnaire du territoire?
Oui, c'est une affaire pour eux. Appelez-moi à Fouvre d'urgence.
Allez, alors, circulez, allons, voyons.
Dis donc, Julien, mais regarde donc qui arrive.
Bon sang, Fouvreau. Oh, si le ministre met la DDT dans le coup, c'est que c'est grave.
Attention, il vient vers nous.
Pardon, messieurs. Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras dans ce trou?
On nous avait dit de toucher à rien.
Vous pouvez sortir.
Ah,
merci.
Bah vous êtes humain, vous, moi.
Oui, oui, oui. En échange, je vous demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé ici cette nuit.
Bon, c'est promis, je ne dirai rien, monsieur. Et que ni que l'obélisque a été changé contre une en staff, ni que j'ai fait un trou dedans, ni l'histoire du hiéroglyphe.
Quelle histoire de hiéroglyphe?
Eh ben, le vieux, hein, le conservateur.
Monsieur Léon Léon?
C'est, oui, il a dit comme ça que l'obélisque a été bien imité, mais qu'il y avait un hiéroglyphe de plus. Et deux signes supplémentaires dedans.
Et... il les a traduits, ces deux signes?
Oui, oui, il les a traduits, oui, oui.
Et il a dit leur signification?
Hein? Non.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, il s'est évanoui.
Évanoui?
Oui.
Tiens,
oui.
Tiens, tiens.
Qui est là?
Un ami qui vous veut du bien.
Entrez.
Pardon.
Asseyez-vous, je vous prie.
Merci.
C'est étrange, monsieur, je ne vous connais pas et cependant j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part.
C'est bien possible, j'y vais souvent.
Ah, ben c'est ça. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous amène?
Un taxi.
Bien sûr, mais encore.
Eh bien, voilà. Vous avez, je crois, découvert un nouveau hiéroglyphe sur l'obélisque.
Effectivement, monsieur, vous êtes au courant?
Naturellement.
Pourquoi naturellement?
Pour rien. Et... vous l'avez déchiffré?
Sans difficulté.
Vous en avez déjà parlé?
Bien sûr.
Ah. Et à qui?
À personne.
Voilà qui est bien. Alors, promettez-moi de continuer à observer à ce sujet la plus absolue discrétion.
Ah ben, ce n'est pas possible, monsieur. Mon devoir est de rendre compte à mes supérieurs.
Allons, pas de bêtises. Si je vous donnais pour prix de votre silence, voyons, 1 million?
L'argent ne m'intéresse pas, monsieur. Mon devoir...
Une maison, alors. Une ravissante maison, bien à vous, clé en main.
Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mon seul, mon devoir...
Alors, une voiture, peut-être?
Aucun intérêt, seul, je vous le répète, mon devoir...
Bien sûr, mais... n'oubliez pas qu'un malheur est vite arrivé.
Je ne crains rien, seul mon devoir...
Allons, monsieur Léon, si vous ne voulez pas demeurer discret par intérêt, faites-le pour votre femme.
Mon devoir passe avant elle.
Vous avez des enfants?
Oui, 4 filles, dont 3 garçons.
Alors faites-le pour eux.
Ce n'est qu'un objectif, mon devoir...
Ou pour votre vieille mère.
Ah si, monsieur, une dernière fois, mon devoir...
Alors faites-le pour moi.
Pardon?
J'ai dit, alors faites-le pour moi.
Ah, ben si c'est pour vous, évidemment, ça change. En somme, vous me demandez ça comme un service personnel.
Mais tout simplement.
Ah, on se croit, monsieur, j'aurais mauvaise grâce.
Alors, nous sommes bien d'accord. Vous ne direz rien.
Ah, absolument rien, c'est promis.
Pas un mot à qui que ce soit.
Vous avez ma parole de conservateur.
Je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Au revoir, monsieur Léon. Et merci.
Au revoir, monsieur. Monsieur, comment?
C'est sans importance.
C'était dans les années 50. C'était donc Signé Furasque, Francis Blanche, Pierre Dac, feuilleton télévisé. Donc ça, c'était la première émission.
Dans l'extrait, il parlait d'éducation, d'ailleurs.
Oui, on peut en parler d'éducation, là, en écoutant d'une oreille l'émission. On parlait des grandes différences éducatives entre les Français et les Kiwis. Une étant qu'en France, on essaye de manger autour d'une table, tous ensemble, le soir.
Plus convivial.
C'est plus convivial, pour ma part, c'est un effort, je le fais, mais parce qu'on voit pas, sinon on verrait pas nouveau en plus, j'ai l'impression. Ouais, du travail.
Ici, il y a beaucoup d'enfants qui mangent en regardant leur téléphone ou dans leur coin
ou devant la télé, c'est ça?
Devant la télé. Donc, l'éducation à la belge, c'est quoi? C'est comment?
C'est un peu comme en France. Hein. On mange autour d'une table.
Ouais. Est-ce que c'est pas un facteur social aussi? Parce que j'ai cette impression que manger autour d'une table est quelque chose qu'on retrouve plus dans les classes, moins dans les classes populaires, de nos jours.
Ouais, mais pas seul. C'est. Je sais pas si c'est une question de... J'irais au même, si tu prends le même niveau social, tu vas avoir plus de Néo-Zélandais qui mangent pas autour d'une table que de Français, Belges. Mm-hmm.
Et tu disais donc, quand tu visites certaines maisons en Nouvelle-Zélande, il y a souvent pas la table à manger, hein, dans le salon.
Alors parfois, c'est parce qu'ils l'ont enlevé pour donner l'impression que la maison est plus grande. Bon, ça, tu sais pas, mais parfois, il n'y a pas la place, quoi. Donc, ils n'ont pas de table, quoi. Parfois, il n'y a pas de livres non plus. Tu cherches, tiens, nous, quand Fred a une collection de BD, on a des livres et tout. Quand on visitait des maisons, on se demandait, tiens, où est-ce qu'on va mettre les livres, toi. Et alors, tu essayes de voir où sont les livres dans la maison que tu visites, et il n'y en a pas. Alors, de nouveau, soit ils les ont cachés, soit ils n'ont pas de livres.
À quoi ça sert d'en avoir si on ne lit pas? Depuis quelques semaines, je reprends le métro et le train pour me rendre à mon travail, et personne ne lit. Personne ne lit.
Mais tout le monde est sur son téléphone.
Et à faire toujours la même chose, à défiler très 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 rapidement sa page Facebook.
Les gens ne sont pas avec leur Kindle? Parce que maintenant, les livres
ont
disparu.
Non, si seulement. Non, ils regardent leur album de famille, ce qui est un peu pathétique, un peu con. Enfin bon.
Les téléphones portables, maintenant tout le monde les utilise, donc ça prend beaucoup plus d'importance dans la vie quotidienne de tout le monde. Après, oui. Ce que les gens font sur les réseaux sociaux, ça leur appartient. Mais il y a beaucoup de jeunes qui utilisent des applications comme Snapchat, qui n'utilisent pas trop Facebook, ils utilisent plutôt Messenger pour envoyer des messages. Ils utilisent beaucoup Snapchat, en fait.
Instagram, de plus en plus. Hein. Snapchat a tendance à disparaître, j'ai l'impression.
Instagram.
Parce qu'on peut faire la même chose et en mieux et plus rapide.
Instagram. Ouais. Donc, Instagram, c'est pour les photos.
Les vidéos également.
Les vidéos, ouais. Les vidéos courtes.
Et écrire des messages comme sur Messenger grâce à Facebook. Mmh. Oui, c'est exactement la même chose.
Toi, Amandine, t'es née dans la génération de la technologie, des portables et...
Au début de Facebook, je dirais, oui.
Ouais.
Et du coup, oui, on est dedans. Après, je pense que j'y suis beaucoup moins attachée que mon frère, par exemple, qui est né dans les années 2000.
D'accord.
Où lui, vraiment... C'est indispensable. Moi, je peux m'en passer assez facilement.
Et une petite controverse là sur Facebook en ce moment, là, comme
petite.
Quoi.
Ouais,
tu veux expliquer parce que j'ai pas tout compris.
Non, j'ai pas trop suivi moi.
Apparemment, ils volent les données des gens pour les revendre à des entreprises. Ou...
Apparemment, il y avait cette entreprise anglaise qui avait accès aux données Facebook. Bon, je crois qu'ils avaient un contrat avec Facebook, mais apparemment, ils ont eu accès à beaucoup plus que prévu. Et puis, apparemment, cette société appartient à une société qui appartient à des Russes et a notamment été utilisée pour cibler à qui envoyer des tracts électoraux pour la campagne de Trump.
Mmh. Il y a beaucoup de... En ce moment, on voit beaucoup Mark Zuckerberg... Le directeur de Facebook, qui est d'ailleurs très pathétique dans ses réponses, hein, qui veut pas dire la vérité, quoi. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, c'est
quelle vérité? On le sait qu'en accédant à Facebook, ils ont accès à toutes nos données personnelles et qu'ils en font un commerce et que par là, ils veulent... Mais ça, on le sait depuis le début. Enfin, c'est vrai. Je vois pas où est le scandale. À partir du moment où tu acceptes d'être là-dessus, tu deviens un marché et on va essayer de te vendre des trucs dont t'as pas besoin.
Tout à fait, mais c'est illégal.
À la base, c'était t'as des données sur Facebook qui te servent à te donner des publicité, et là c'est une société a pris les données de Facebook pour servir des intérêts douteux.
Donc faut-il se désabonner de Facebook, et Facebook va-t-il être payant? C'est un peu la question que les gens se posent en ce moment, hein, pour Facebook.
Bah, si Facebook ne peut plus utiliser nos données à sa guise, il deviendra payant, et donc il cessera d'être.
Et peut-on porter plainte contre Facebook? Peut-on récupérer... un peu d'argent sur le vol de nos données?
Non, parce que tout est écrit quand tu as accepté les terms and conditions.
Ah, c'est écrit dans le contrat?
C'est écrit de telle manière que tu peux pas porter plainte.
Voilà. Mais bon, ça serait intéressant qu'on puisse porter plainte contre ces gens-là, quoi.
De gagner quoi? Où est le préjudice?
Oh bah, pourquoi voler les données des gens? Pourquoi personne. Les jeunes qui s'abonnent à Facebook, je pense pas qu'ils soient conscients du fait que.
Il y a une réaction simple, c'est se déconnecter,
Tout à fait. Et
se priver d'électricité, vivre comme au 19e siècle.
Ah, ce qu'on peut dire, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, il y a toujours des gens qui sont privés d'électricité à Auckland, dû à la tempête.
Au 21e siècle.
Ouais.
Donc, okay. C'est agréable de lire à la lampe de poche et donc de pas pouvoir oublier. Survivre à la bougie, c'est très difficile, ça fait très mal aux yeux. Mais à 10 heures de tomber de sommeil et d'ennui et d'être pris par la rêverie, enfin, vraiment dans la ténèbre. La plus complète.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un charme dans tout ça, mais il y a quand même des gens qui sont dépendants un peu de l'électricité, qui ont des problèmes médicaux et tout ça.
Excuse-moi, je n'avais pas pensé à vous. Bien sûr, un Musgueule pense à ces gens-là.
Bah oui, on les salue d'ailleurs.
On les salue.
S'ils nous écoutent. Et c'est pas drôle pour tout le monde à Auckland en ce moment, dû à la tempête. Hein.
Non, allez.
Il nous reste une minute.
Amandine, une question que j'ai oublié de vous poser et qui est que pensez-vous de la qualité de l'ennui en Nouvelle-Zélande ?
La qualité de l'ennui ?
Oui.
Je pense que je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'ennuie facilement. Enfin, je trouve toujours quelque chose à faire.
C'est pour ça qu'elle est là avec nous.
Quoi qu'il arrive.
Vous êtes un individu supérieur.
Ah non.
Non, mais c'est une définition qu'on peut donner à la culture. C'est toujours trouver quelque chose à explorer, à découvrir, à aimer. Et me voilà.
Merci d'être venu, Amandine.
Merci. C'est la plus belle chose qu'on a entendue pendant ces missions. Quel dommage de l'avoir gardée pour la toute fin de celle-ci. Donc, merci, Amandine. Au plaisir de vous revoir prochainement derrière ce micro.
Merci.
Ce fut
vous.
Une révélation. Messieurs, Yvan, tu retournes à tes manettes. Stéphane, tu as fait du très beau boulot.